cours de logique. Et n'hésitez pas, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, de les noter. Donc, nous sommes un petit peu dans l'introduction. Je fais quelques cours d'introduction, c'est nécessaire. La dernière fois, je vous ai montré à partir de quel moment naissait la logique. Pourquoi il y a une logique? C'est à cause du problème de l'abstraction. Si, de fait, on avait l'intuition directe de la réalité, si notre intelligence était uniquement une photographie de la réalité, si on photographiait la réalité, on n'aurait pas besoin de logique. Oui. Si l'intelligence était comme le reflet de la réalité, un miroir qui reflète tout simplement la réalité, on n'aurait pas besoin de logique. On décrirait tel qu'on voit, c'est tout. La logique naît à partir de l'intelligence, elle n'est pas dans la réalité, il n'y a pas de logique dans la réalité. Vous savez bien. Regardez la réalité, comment elle arrive, il n'y a pas de logique. La logique vient de l'esprit. Elle vient de l'esprit et elle vient à cause de la transformation que l'intelligence fait subir à la réalité. C'est parce que la réalité telle qu'elle est et la réalité telle qu'elle est connue, il y a une différence entre les deux. C'est pour ça que je peux connaître la même réalité sous des aspects très très différents. Autrement, je n'aurais qu'une seule manière de connaître la réalité. Mais je peux connaître l'homme du côté psychologique, du côté sociologique, du côté théologique. Je peux connaître l'homme du côté philosophique. Je peux le connaître du côté biologique. J'ai beaucoup d'aspects sous lesquels je regarde l'homme. Si j'ai beaucoup d'aspects sous lesquels je regarde l'homme, c'est parce que chaque fois, je n'ai qu'un aspect particulier. Autrement, je le regarderais, j'aurais l'intuition, c'est tout. Et j'aurais le Descartes. Et mon intelligence reproduirait directement ce qui est dans la réalité. Mon intelligence s'approche progressivement de la réalité. Et elle a sur la réalité des points de vue différents. Et c'est pour ça qu'il y a tant de sciences. Et que les sciences, dans leur progrès même, se particularisent. Ça, c'est un phénomène qu'on peut constater. C'est un phénomène, parce que la science, c'est l'homme qui l'a fait. La science, c'est ce que je connais de la réalité sous un aspect donné. Et une autre science, c'est ce que je connais de la réalité sous un autre aspect. La science n'est jamais adéquate au réel. Le réel est toujours infiniment plus. C'est pour ça que je pourrais progresser indéfiniment dans la science. Il n'y a pas de limite dans les progrès de la science. Parce que la réalité est toujours beaucoup plus riche que ce que la science connaît. Oui. Donc ça, c'est pour essayer de comprendre pourquoi il y a une logique. La logique naît à partir de là. Et là, c'est aussi très intéressant ce que je vous dis là pour comprendre comment, dans certains systèmes philosophiques, la logique devient la philosophie. La logique devient la philosophie dans les systèmes philosophiques qui partent du côté de l'intelligence et qui fait que c'est l'intelligence qui mesure la réalité. Alors, à ce moment-là, si l'intelligence mesure la réalité, il n'y a plus cette inadéquation de la réalité et de ma connaissance. Et par le fait même, ma connaissance pourrait être une démarche dialectique. Et à ce moment-là, elle sera la réalité. Mais les deux démarches, il faut toujours regarder les deux aspects. Et je crois que ça, c'est très intéressant pour comprendre comment, de fait, dans certains systèmes philosophiques, la logique devient la philosophie. Ça, ce serait intéressant si on regardait l'histoire de la logique. Alors, si vous avez beaucoup de courage, je ne doute pas que vous en ayez, n'est-ce pas, regardez le livre du père Porensky, n'est-ce pas, sur l'histoire de la philosophie, de la logique. C'est un gros bouquin en allemand. Vous n'avez qu'à regarder. Un énorme bouquin. Et alors, je vous l'amènerai une fois pour qu'au moins vous l'ayez vu dans votre vie. Parce que comme ça... Et alors, je vous le laisserai poster pendant le coup, comme ça vous dites, je vais regarder. J'ai vu ce que c'était. J'ai vu que c'est très intéressant. C'est l'histoire de la logique où il essaie de ponctuer comment la logique s'est développée au cours des siècles. Alors, c'est évident, si vous voulez être spécialiste de la logique, il faut regarder ça, c'est sûr. Autrement, vous le regardez en disant, oui, je sais que ça existe. C'est un excellent instrument de travail. Toutes les recensions disaient ça. Un excellent instrument de travail. C'est-à-dire qu'à partir de là, il faut tout découvrir. C'est ça que ça veut dire, tu vois, parce que ça vous donne uniquement des textes, mais il faut les comprendre. Les textes, c'est très bien, on accumule des textes, on montre que la logique s'est développée au cours des âges, c'est très vrai. Mais il faut essayer de comprendre. Donc, la logique est née avec Aristote, au sens propre. Elle est née avec Aristote. C'est pour ça que tout le monde reconnaît qu'Aristote est le grand-père de la logique. Qu'on soit aristotélicien, qu'on ne soit pas aristotélicien, qu'on soit hegelien ou aristotélicien, on reconnaît toujours que c'est Aristote qui a de fait été le grand-père de la logique. C'est quand même intéressant de se le rappeler. Alors, il faut regarder maintenant, si vous voulez, à partir de là, simplement, dans l'introduction, quels sont les grands livres qu'Aristote a écrits sur la logique. Alors là, je vous énumère. Hein, c'est une question, encore une fois, c'est une information. Il faut bien, vous devez la voir. Parce que comme Aristote est le grand-père de la logique, il faut au moins se rappeler qu'il y a dans Aristote toute une série de livres logiques. On ne perd pas son temps de les regarder. C'est pas commun. Hein. La logique d'Aristote est sûrement pas très commun. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a d'abord ce qu'on appelle les topiques. 6 livres de topiques. Ça représente quand même quelque chose. Qu'est-ce que c'est que les topiques? Je crois qu'au plan génétique, c'est-à-dire selon l'ordre, selon qu'on peut savoir qu'Aristote a écrit la logique, les topiques sont sans doute le livre le plus ancien. Avant, il y a la raison. Mais la rhétorique, c'est une logique très particulière. La rhétorique, c'est la logique pour le politicien. Elle est au service du politicien. Il faut savoir bien parler si on fait de la politique. C'est élémentaire. Non? Et qu'est-ce que c'est que la rhétorique? La rhétorique est en vue de la persuasion. C'est pas tellement bien donné, mais c'est persuader. Vous voyez, un avocat, quand il plaide une cause, il faut de la rhétorique. Très intéressant, vous avez la rhétorique. Bon, vous le savez non plus pas. Voilà. Une rhétorique aujourd'hui qui doit être très simple, persuader, arriver à persuader, la persuasion. Plaider une cause. Plaider une cause. Alors, Aristote souligne que pour plaider une cause, ordinairement, il faut toujours prendre les deux extrêmes et puis montrer que on plaide tout. Bon système, vous voyez. Quand vous ne savez pas quoi dire, aux examens, vous prenez toujours le contraire. Ça, c'est la rhétorique. On a le droit de faire un peu de rhétorique aux examens. Donc, alors, on vous demande quelque chose. Qu'est-ce que c'est que la liberté? Cherchez tout de suite qu'est-ce que c'est que la violence. Ça aide beaucoup, vous savez. Parce qu'autrement, on est coincé, ordinairement. On est coincé quand on regarde uniquement une chose. Notre intelligence est toujours une intelligence de comparaison. Nous le verrons, ça. Et la rhétorique, c'est ça. On compare, on oppose et on essaie de saisir. Vous voyez, au fond, il y a beaucoup dans la dialectique, dans la rhétorique, il y a beaucoup de dialectique. La rhétorique est la base de dialectique. C'est très très intéressant à voir ça dans la rhétorique d'Aristote. C'est intéressant, c'est envie d'apercevoir. Donc, c'est une logique pour le politicien. Il y avait déjà une rhétorique chez Platon, c'est sûr, Aristote a dit que c'est de l'ordre de la logique pour le monde. Alors, la topie pour Aristote, c'est proprement ce qu'il appelle la dialectique. La dialectique pour Aristote, c'est une topique. Qu'est-ce que c'est qu'une topique? C'est d'ordonner les opinions des hommes. On est en matière probable. C'est le propre de la topique. On est en matière probable. Alors, en matière probable, on ordonne l'opinion des hommes. Et on essaie de comprendre les différentes opinions des hommes. Et alors, pour comprendre la graduation des opinions des hommes, on regarde si c'est l'opinion d'un sage, du moins quelqu'un qui est renommé à ça, n'est-ce pas, de gens plus intelligents, des philosophes, et puis de la multitude. Au fond, on gradue l'opinion. On gradue l'opinion pour voir si le caractère de l'opinion est plus ou moins acceptable. Parce qu'une opinion demande d'être acceptée. Et à partir de l'opinion de quelqu'un, on peut prendre l'opinion de quelqu'un d'autre et les opposer. Et alors, la topique a comme but de labourer le terrain. On prépare le terrain par la topique. Très curieux. On prépare le terrain. Et en vue de la recherche philosophique, la topique demeure dans l'ordre de l'opinion, la doxa, au point de vue grec. La doxa, c'est ça la topique. Alors, toute la topique est faite aussi pour les disputes, pour les réfutations. Et c'est pour ça qu'à côté de la topique, il y aura un livre de réfutation des sophistes. C'est intéressant, puisque Aristote se situe face aux sophistes, c'est intéressant de voir qu'à l'intérieur même de sa logique, il y a la réfutation des sophistes. Je n'insiste pas, parce que si vous entrez dans la logique, on n'a pas le temps, et puis c'est quelque chose de très complexe. Mais c'est intéressant de mettre un tout petit peu son nez dedans une fois, et regarder un peu ce que c'est que les topiques d'Aristote. On sait ce qu'Aristote, c'est la dialectique. On est au niveau des opinions. Aristote ensuite va traiter dans les analytiques, les premiers analytiques et les secondes analytiques, prior et postérieur, n'est-ce pas ? Donc vous avez les premiers analytiques et les secondes analytiques. Les analytiques, ce qu'il appelle les analytiques, c'est la logique du syllogisme et de la démonstration. Les premiers analytiques, c'est le syllogisme, et les secondes analytiques, c'est la démonstration. Donc, c'est la logique de la science. C'est la logique de la science. On essaie de comprendre qu'est-ce qui constitue la science, l'épistémère. Donc, Aristote distingue la dialectique de l'épistémère, alors que Platon identifiait dialectique et épistémère. Vous regardez toujours le parallélisme avec Platon, hein. Toujours intéressant, parce que Aristote se situe toujours face à Platon. Alors, pour Platon, la dialectique, c'était l'épistémère. C'est pour ça que la dialectique aristotélicienne n'est tout à fait autre chose que la dialectique platonicienne. Vous avez là donc deux types de dialectique, deux significations tout à fait différentes de la dialectique. Et deux significations tout à fait différentes de l'épistémère. C'est aussi très important de voir que l'épistémée aristotélicienne, nous verrons progressivement ce que c'est que l'épistémée, la science chez Aristote. Ici, je ne fais que situer les têtes de livre. Hein. Donc, l'analytique première, le syllogisme, et les diverses formes de syllogisme, et la démonstration, qui est tout simplement le syllogisme en matière nécessaire. C'est ça le propre de la démonstration. C'est le syllogisme en matière nécessaire. Tandis que la topique, c'est le syllogisme en matière opinable. En matière où on peut discuter. Donc, les analytiques. Il y a ensuite l'herménéas. C'est le livre de l'interprétation. Le livre de l'interprétation. C'est la logique du jugement. On croit que c'est un livre qu'Aristote a écrit tout à fait à la fin de sa vie. C'est un livre extrêmement important, le livre de l'herméneutique. C'est un livre très important parce que c'est un livre où il y a de la logique et de la critique. Hein. Les deux sont très liés pour Aristote. Et là, c'est au fond un livre sur ce que représente le point de vue du jugement chez Aristote. Vous voyez, l'analyse, on va voir ensuite. Et ensuite, en dernier lieu, les catégories. Les catégories, on ne sait pas si c'est d'Aristote ou si c'est d'Aristote. Au fond, c'est dans l'esprit d'Aristote. Alors, nous allons regarder l'ordre qui existe. Voyez, c'est à peu près, je crois, sauf les catégories, comme on ne sait pas si c'est d'Aristote ou d'Aristote, au point de vue ordre génétique, on ne sait pas exactement. Mais normalement, je crois qu'on peut dire que nous allons du plus complexe vers le moins complexe. Vous allez comprendre. Ça, c'est intéressant à noter. Vous avez donc la plus grande complexité, c'est la rhétorique. Ça, c'est sûr. C'est la plus grande complexité. La rhétorique aime beaucoup les syllogismes par mode de signes. Le signe, il sert beaucoup en rhétorique. Par mode de signes et par mode d'exemple. On donne des exemples. Vous savez, c'est comme ça qu'on plaide une cause. On donne des exemples. Et on donne des raisonnements à partir d'exemples. Qui sont des raisonnements absolument pas scientifiques, mais qui sont des exemples, ça nous frappe. Je vous donne un exemple. Hein. Très bien. Celui qui veut plaider une cause donne un bon exemple, un exemple typique, et là ça frappe tout le monde. C'est frappant, c'est des arguments frappants. Hein. C'est dans la rhétorique. La topique, au contraire, elle regarde les opinions, elle est déjà moins complexe, mais elle devient complexe parce que les opinions sont multiples et diverses. L'analytique, elle devient quelque chose de beaucoup plus serré. Parce que c'est la science, et la science reste dans l'ordre du nécessaire. C'est propre de la science, c'est d'être dans l'ordre du nécessaire. Mais c'est quand même l'argumentation. Donc on a là quelque chose de complexe. On a toujours les deux prémices et puis la conclusion. Donc il y a toujours au moins trois termes. Dans tout raisonnement, il y a trois termes. Les deux prémices et la conclusion. Dans le livre sur l'interprétation, c'est le livre du jugement. Le jugement, il y a deux termes. Au moins, il peut y avoir que deux termes. Pierre est grammairien. Ou Pierre existe. Il y a deux termes. Le sujet est prédicant. Et dans la logique des catégories, il n'y a plus qu'un terme. Donc, les individus. Ce qui est capable d'être attribué. Catégorie, ça veut dire ce qui est capable d'être attribué. Alors voilà les grands livres de la logique d'Aristote. Vous voyez, c'est quand même quelque chose de très important. Aristote appelle cette logique l'organome. Et c'est intéressant de voir que c'est l'organome. Qu'est-ce que ça veut dire l'organome? C'est-à-dire l'instrument. Donc la logique est un instrument. C'est un instrument de la pensée. La logique n'est pas la pensée pour Aristote. Elle n'est pas la pensée, mais elle est l'instrument de la pensée. Elle permet à la pensée de se développer. C'est pour ça qu'il faut toujours faire une grande distinction entre la forme logique de la science et le contenu réel de la science, ou le contenu positif de la science. Surtout pas confondre. Hein, faut pas dire la science est de la logique. Pas du tout. La science n'est pas de la logique, mais il y a une manière logique de regarder la science. Donc, la logique, c'est l'organone, l'instrument qui permet à la pensée d'atteindre une plus grande précision, qui permet à la pensée d'atteindre une plus grande rectitude. Mais la logique est au service de la pensée, ce n'est pas la pensée. La logique présuppose la pensée, et elle vient pour préciser la pensée. C'est pour ça que je peux très bien raisonner parfaitement sans logique. Si mon intelligence est droite. Mais normalement, pour raisonner parfaitement, j'ai besoin de la logique. Vous voyez, la logique viendra tailler sur une table. Ça va permettre de la table. Voilà ce que représente la logique d'Aristote. Hein. Les différents moments, puisque c'est le père de la logique. À partir de là, il faut bien comprendre. À partir de là, parce que c'est à partir de là qu'il faut comprendre. Aristote ne donne pas plus, il donne ses livres successifs. À partir de là, on aura saint Thomas, commentateur d'Aristote. Je prends tout de suite, parce que je ne prends pas les autres commentateurs. Les autres commentateurs, tout simplement, donnent des sans du tout systématiser. Ce qui est intéressant dans saint Thomas, c'est que saint Thomas va essayer de systématiser ça. Peut-être plus ou moins d'accord, mais au fond, il faut essayer de voir la pensée de saint Thomas quand il essaie de systématiser la pensée d'Aristote. Parce que de fait, la logique d'Aristote, c'est la première chose qui a été traduite. Hein? Boès. Boès a traduit la logique d'Aristote. La métaphysique d'Aristote a été traduite par saint Thomas. Enfin, c'est saint Thomas qui a demandé qu'on la traduise, c'est pas lui qui a traduit. Mais il a été traduit par saint Thomas en latin. Mais la logique a été traduite bien avant. Donc, Boès, 6e siècle. Et c'est intéressant que le monde latin s'est intéressé plus à la logique d'Aristote qu'à la métaphysique. Parce que le latin est toujours un peu logique. C'est le juriste, vous savez, comparativement au grec. Le latin est très juriste, le latin est très logique. Et au fond, on voit très bien que l'intérêt des latins, c'est le génie latin était beaucoup plus proche du génie d'Aristote comme logicien que du génie d'Aristote comme métaphysicien. Alors la logique d'Aristote a été traduite en latin, elle a pénétré dans le monde latin. Et par le fait même qu'elle ait pénétré dans le monde latin, on peut dire qu'il y a eu toute une élaboration qui s'est faite, passant du grec au latin, et saint Thomas va de fait systématiser cette pensée d'Aristote. Je crois qu'on peut dire qu'il la systématise. Aujourd'hui, on souligne très très fort ce point de vue-là, d'une systématisation de la pensée. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais. Ça veut dire simplement qu'il y a un passage d'un aspect d'Aristote qui donne certains aspects comme ça, et puis une réflexion de saint Thomas qui essaie de comprendre comment l'intelligence, notre intelligence, qui est une intelligence qui raisonne,
faudrait distinguer toujours les deux aspects. Ah, Aristote aussi distinguait le nous de l'aspect logos. Le nous logos et le nous tout court. Le nous qui contemple et le nous qui résonne.
Le nous qui contemple est au-delà de la logique. La logique ne pénètre pas dans la contemplation.
Qui montre bien que la connaissance dans son état parfait échappe à la logique.
C'est-à-dire pourquoi faire de la logique ? C'est très vrai. Si l'intelligence dans son état parfait échappe à la logique. Quand vous contemplez, métaphysiquement, quand vous contemplez, eh bien, il n'y a plus de logique. La logique se tait. La logique, c'est pour l'intelligence qui résonne.
L'intelligence, la raison. Ça, c'est aussi une distinction qui est très importante. On y reviendra. C'est très important parce qu'à partir de Descartes, on ne parlera plus que de l'entendement.
Et l'entendement ne sait plus où on en est.
Tandis que cette distinction est quand même très importante de voir l'intellectus et la ratio. En latin, intellectus, ratio. Une distinction se fait constamment, saint Thomas, et qui correspond à cet Aristote, le nous, indivisible. Et le nous logikos, le nous qui résonne.
Alors comprenons bien cette distinction. L'intellectus, c'est notre faculté de juger.
Nous y reviendrons.
Et la ratio, c'est notre faculté de raisonner. Vous comprenez que la logique n'est parfaitement elle-même qu'au niveau du raisonnement. C'est le raisonnement, il n'est pas du tout dans la réalité. C'est tout à fait l'intelligence qui raisonne. Et que le raisonnement est bon ou mauvais, il est juste ou faux, il a bon besoin d'un tuteur. Et la logique sera là pour l'aider.
Oui. Alors, je vois tout de suite la systématisation que donne saint Thomas de la pensée d'Aristote. Cette systématisation va reposer sur toute une vision de saint Thomas sur l'intelligence et la raison, pour voir que de fait, la logique est au service de la vie de l'intelligence.
La logique est au service de la vie de l'intelligence. Or, l'intelligence se développe de trois manières, selon saint Thomas.
L'intelligence se développe en premier lieu selon l'appréhension. Elle se développe en second lieu selon le jugement. Elle se développe en troisième lieu selon le raisonnement. C'est cette fameuse chose des trois opérations d'esprit. Les trois opérations d'intelligence.
Ça, c'est capital. On développe surtout ça en logique, en critique. Et comme ici, je fais un cours de logique et de critique, ceux qui assisteront au cours de critique tout à l'heure retrouveront des choses parallèles. Mais ici, je fais pour la logique en premier lieu. Comme vous ne suivez pas le cours de critique,
il faut que je vous précise ce que représentent ces trois opérations d'intelligence. L'appréhension, le jugement et le raisonnement. En réalité, cette division n'est plus une division logique, c'est une division critique. C'est-à-dire, je réfléchis sur la vie de mon intelligence. Et je vois que mon intelligence se développe de trois manières différentes. Elle se développe par l'appréhension, c'est-à-dire par le fait que l'intelligence saisit. L'intelligence saisit. Elle saisit des indivisibles. L'intelligence saisit des indivisibles. Au fond, c'est là où apparaissent nos idées. C'est là où apparaissent nos concepts. J'ai le concept du blanc, le concept de la qualité. Saint Thomas dit qu'au niveau de l'appréhension, c'est la logique des catégories. Ça, c'est très important à comprendre. La logique des catégories, c'est la logique de la première opération de l'esprit. La logique de la seconde opération de l'esprit, c'est l'herméneutique, l'interprétation. C'est la logique de la prédéfinie. C'est la logique. Et la logique du raisonnement, c'est la logique des analytiques. des premiers et secondes analytiques, et aussi des topiques. Des topiques pour tout ce qui est en voie de développement, la recherche. La logique de la recherche, c'est la logique des topiques. Parce que quand je raisonne scientifiquement, je découvre, je possède, je ne suis plus dans une recherche au sens rigoureux. La science est toujours enveloppée d'une recherche, tant que je n'ai pas découvert. Alors le jour où j'ai découvert, je passe du raisonnement topique au raisonnement scientifique. Je passe de l'opinion au nécessaire. Je passe de réalité possible au nécessaire. Donc vous voyez, simplement en faisant ça, reprend les différents livres d'Aristote en les nouant de l'intérieur. C'est ça que j'appelle systématiser. En essayant de comprendre leur fondement par rapport à la vie de l'intelligence. Autrement dit, Saint Thomas se pose la question, comment se fait-il qu'Aristote ait progressivement développé tous ces livres de logique? Il doit y avoir une raison. Un homme aussi intelligent qu'Aristote a dû quand même voir qu'il était obligé de développer ça. Alors Aristote ne le fait pas, ça. Parce que Aristote est un chercheur, et étant un chercheur, il n'a pas le temps de systématiser. Donne tout simplement les choses. Saint Thomas qui vient après, et qui lui, en tant que théologien, prend un peu de recul, essaie de comprendre comment ces différents livres, en réalité, reposent sur toute une structure de la vie d'intelligence. Quelle est cette structure de la vie d'intelligence? C'est qu'elle implique des saisies indivisibles, c'est qu'elle implique des jugements, c'est qu'elle implique des raisonnements. J'ai donc, dans la structure même de ma vie intellectuelle, d'une intelligence qui résonne, trois grands moments. C'est ce qu'on a appelé d'une façon traditionnelle les trois opérations de l'intelligence. Les trois opérations de l'esprit. Ça, il faut voir le passage avec Aristote. C'est très intéressant de voir ça, au point de vue histoire de la pensée, si vous voulez. De voir comment Aristote, lui, ne fait qu'énumérer, il donne des livres comme ça. C'est pas bête du tout. Il y a quelque chose de très intéressant. Alors, il y a temps, toujours, dans toute élaboration comme le fait saint Thomas, il y a un très grand danger de tomber dans le système. C'est ce qu'on a fait ensuite, les thomistes. Vous voyez, ils sont tombés un peu dans le système. Ils ont séparé les trois opérations. Alors que l'analyse des trois opérations n'est pas une séparation. C'est une simple distinction que fait saint Thomas à l'intérieur de la vie de l'intelligence. La vie d'intelligence implique ces trois moments. Si la vie d'intelligence implique ces trois moments, j'aurai donc les trois moments de logique, ce qui est tout à fait normal, puisque la logique est au service de l'intelligence. Si l'intelligence a trois développements différents, il y aura donc trois aspects de la logique. D'où la division classique de la logique. La logique, et ça vous trouvez ça dans Maritain, la division classique de la logique, nous y reviendrons. Division classique de la logique, la logique des concepts, la logique du jugement et la logique du raisonnement. C'est très simple. Puis trois grands aspects de la logique. Il faut comprendre ça, parce que ça, ça fait une chose assez classique. Ça fait une chose assez classique. Donc il faut savoir que cette division, on dit aristotélicienne. Non, ne dites pas qu'elle est aristotélicienne. Est-elle thomiste? Elle est beaucoup plus proche de saint Thomas d'Aristote, ça c'est sûr. Mais elle n'est pas directement d'Aristote. Elle se fonde dans Aristote, ça je suis d'accord. Mais je ne crois pas qu'Aristote l'aurait accepté. Pour des raisons, on va essayer de voir. Parce que c'est intéressant de voir le développement de la logique, si vous voulez, au cours des âges. Et dans le thomisme, vous prenez n'importe quel manuel de logique, thomiste, dit thomiste, n'importe quel truc de manuel, vous verrez. Logique du jugement, logique du concept, logique du jugement, logique de du raisonnement. Alors, vous voyez le très grand danger. On va le voir progressivement, ça, si c'est systématisant. Parce que je crois que c'est important de voir cet aspect-là. Donc, vous avez trois aspects, qui sont les trois grandes divisions de la logique, ce point du côté de l'intelligence. Alors, vous voyez, le danger, c'est que la logique se divise non plus en elle-même, mais se divise à partir de l'intelligence. est-ce que la logique peut se diviser en elle-même ou pas se diviser en elle-même? Ça, c'est une question que nous allons toucher tout de suite.
Bon, ça c'est, j'ai vu donc Aristote, j'ai vu saint Thomas. Autre question, troisième point, dans ce que représente le développement de cette introduction sur ce que représente la logique. Vous suivez, j'espère. Si vous ne suivez pas, tirez sur la sonnette d'alarme en disant « Je ne suis plus, je ne vois plus », alors vous illuminez. Et alors à ce moment-là, on va essayer, on va regarder maintenant le troisième moment. Je crois que ça, c'est il faut le savoir, ces choses-là. Ces choses classiques que je vous donne là, ces choses tout à fait élémentaires, hein, très classiques. Bon, alors, une très grave question, c'est de savoir si la logique est une science ou un art. C'est une grosse question, grosse question. Aristote dit, c'est pas poser la question, c'est saint Thomas qui se pose la question. Je divise bien saint Thomas et Aristote, vous voyez, parce que c'est quand même très important de bien séparer les deux. Aristote, lui, dit organon, donc un instrument. Si elle est un instrument, elle n'est ni science ni art. Mais elle sert à l'art. Et elle sert à la philosophie. Un organome. Un organome, c'est un instrument. Vous n'allez pas vous poser la question de savoir si un organome, c'est l'art ou la science. C'est un instrument. Mais c'est un instrument de l'intelligence. Vous pouvez vous poser la question, est-ce que l'ordinateur, qui est un instrument de l'intelligence, est philosophique? Là, vraiment, l'ordinateur est un instrument. C'est un prolongement de ma raison, l'ordinateur. Je prolonge ma raison avec l'ordinateur. C'est un instrument. Alors, quelle différence est-il entre cet instrument-là et la logique? Vous voyez tout de suite la réponse, j'espère. Hein? Aristote ne pouvait pas se poser la question. Mais, ni simplement, l'ordinateur n'existant pas. Mais maintenant, nous pouvons nous poser la question. Eh bien, l'ordinateur est un instrument séparé. La logique est un instrument conjoint. C'est vrai, la logique, elle est dans... Je ne peux pas vous vendre un petit appareil logique. Tandis que je peux vous vendre un ordinateur. Je ne peux pas vous vendre la logique. Vous devez la découvrir vous-même et vous devez l'acquérir vous-même. L'ordinateur, ça s'achète. La logique, ça ne s'achète pas. Même pour passer des idées. C'est quelque chose qui est au-dedans de nous-mêmes. Mais c'est un organone. Et c'est pour ça qu'on comprend très bien que cet organone peut être un art. Et peut être une science. D'où la question. Et je ne peux pas me poser, je ne me poserai pas la question de savoir si l'ordinateur est une science ou un art. Ce serait complètement idiot. Vous voyez, c'est pour ça que l'organone d'Aristote demande d'être précisé. C'est pas suffisant de dire organone. Il faut dire l'organone, un instrument immanent à ma vie d'intelligence. Je le porte en moi et je l'acquiers. C'est un instrument que j'acquiers progressivement. Dans la mesure même où je raisonne, j'acquiers cet instrument. Et cet instrument, il est au-dedans de moi-même, il ne faut pas l'arracher. Il est celui qui va fructifier en moi cet instrument. C'est un instrument qui va prendre possession de plus en plus de ma manière de vivre, ma manière de penser, pour préciser ma pensée. Alors, on va se poser la question, la logique est-elle un art ou est-elle une science? Une question importante et intéressante, ce n'est pas une petite question. Ce qui est sûr, c'est que pour Aristote, la logique ne fait pas partie de la philosophie. Elle n'est pas une partie de la philosophie. Et c'est pour ça qu'il dit organon. Elle est au service. Mais on comprend bien. Elle est au service. Donc elle n'est pas la philosophie. Elle n'est pas une partie de la philosophie. Je dis ça, c'est parce que dans la perspective moderne, on dira qu'elle fait partie de la philosophie. Il faut quand même comprendre. Il faut saisir ça. Dans la perspective moderne, on dira ça. Dans la perspective d'Aristote, non. Pour saint Thomas est moins précis qu'Aristote là-dessus. Saint Thomas considère que la logique est un art et qu'elle est une science. Or, pour saint Thomas, la science, c'est très proche de la philosophie. Parce que la science moderne n'est pas encore née.
C'est pour ça qu'il y aura des textes dans Saint Thomas où on dira que la science, que on dira que l'art, que la logique est une science et qu'elle est une philosophie rationnelle. Il le dit dans le De Trinitate et Boëse. Il dit que la logique est une philosophie rationnelle, une science rationnelle, la science de la raison. Oui. Mais ce n'est pas la philosophie, parce que, au sens rigoureux, parce que la philosophie regarde ce qui est. La philosophie se termine toujours à un jugement d'existence. La logique, non. Donc, au sens rigoureux, elle n'est pas une philosophie. Mais, à un certain sens, on peut dire qu'elle est une philosophie, en ce sens qu'elle est une partie rationnelle de la philosophie. Alors, voyons tout de suite, hein, pour que vous compreniez bien la signification. Quelle différence y a-t-il entre science et art dans le langage de saint Thomas? Saint Thomas, à la suite d'Aristote, distingue avec beaucoup de précision la différence de l'art et de la science. Qu'est-ce que c'est que l'art, techné? L'art, pour saint Thomas, est un habitus. Donc c'est quelque chose que j'acquiers, un habitus. Vous savez, habitus, c'est impossible à traduire. Oui, c'est du grec, si vous aimez le grec, donc c'est plus intelligible pour vous, n'est-ce pas? Alors je donne exis, n'est-ce pas? L'habitus, exis, l'habitus. Alors ça vient de avérer, avoir. Un habitus, c'est ce qu'on possède, c'est ce qu'on a. L'habitus, c'est ce qu'on acquiert aussi. C'est ce qu'on possède et ce qu'on acquiert. Ça, c'est un terme qui est très important dans la pensée ancienne. Lexis, ce que j'acquiers, et progressivement, prenez tout simplement le fait que en forgeant devient forgeron, quoi. En forgeant devient forgeron. Donc j'acquiers le métier de forgeron. J'acquiers l'habitus de forgeron. En travaillant le bois, en étant ébéniste, je deviens ébéniste. J'acquiers une disposition, un habitus, un art. L'art du maçon, c'est un art. Celui qui n'a jamais été maçon, mais il s'en rend pas. Il y a un art. Alors, l'acquisition d'un art, l'acquisition d'une technique, c'est à l'intérieur de mon intelligence pratique, un pli qui me permet de ne pas perdre de temps. Quand on n'a pas l'art, on perd du temps. Il y a un art culinaire. Il y a des gens qui savent faire la cuisine. Et puis il y a des gens qui ne savent pas faire la cuisine. Alors, non seulement ils perdent du temps, mais la marchandise est un peu gâchée. C'est un peu comme ça. Alors ils perdent du temps. À la place de faire une bonne omelette juteuse, elle est complètement cuite. Et on a l'impression que ça ne va plus du tout. Alors, c'est le cuit et le cru, vous savez, dans la cuisine. C'est l'alliance des deux. Donc, l'art, c'est un habitus, c'est-à-dire un pli d'intelligence. L'intelligence est déterminée selon un certain ordre. C'est comme une méthode intérieure, c'est un ordre de détermination où je sais ce qu'il faut mettre avant l'autre. Je comprends ça, je vois immédiatement ce que je dois placer avant, ce que je dois placer après. Celui qui a l'habitus d'art voit tout de suite ça. Vous voyez, un bon mécano, il a l'habitus, il sait très bien comment il faut faire. Il sait immédiatement. Il sait comment ce qui est antérieur, ce qui est postérieur, vous voyez, l'ordre. Mais dans l'ordre pratique, dans l'ordre de ce qu'il faut faire, c'est un habitus qui me permet de transformer la matière. L'art est un habitus qui permet de transformer la matière. La matière, si je prends la matière au sens le plus général, ce qui est capable de transformer. Donc c'est le bois, c'est le fer, c'est tout ce que vous voulez. Et quelquefois, c'est l'animal. Quand vous dressez un animal, il y a un art de dresser un animal. Vous dressez un chien, on voit tout de suite qu'un chien a été dressé par un maître ou s'il a été dressé par un... n'importe qui, quoi. Vous voyez, ça se sent tout de suite. Alors, s'il a été dressé par quelqu'un qui sait, bon, alors, on voit, il a un habitus. Ça donne l'habitus. Il est dressé. Alors,
il y a une espèce de méthode intérieure, immédiatement, qui est dedans,
et qui fait que l'habitus d'arbre transforme la matière pour arriver à partir de là, de faire une œuvre. On édifie quelque chose. L'homme se sert de l'habitus pour transformer la matière. Et le travail, c'est pas autre chose que cette transformation de la matière.
Et aujourd'hui, c'est très important d'avoir une philosophie du travail, par exemple. Très important. Parce que nous avons cette expérience vivante
capable de transformer la matière pour faire une œuvre. Donc, on peut très bien réaliser une œuvre sans avoir aucun habitus. Il y a des gens qui tout de suite comme ça.
Ils ont la main. Tout de suite. Première omelette qu'ils font, ouf. Pas fait jamais aussi bon. Donc, ils ont la main.
C'est pas les œufs qui sont meilleurs,
c'est pas la pâte qui est meilleure, c'est pas le sel qui est meilleur. Non. Ils ont fait ça exactement comme il fallait. Vous leur demandez de recommencer, ça. Bon. Ah, ils ont eu un coup de main, un coup de maître, mais ils ne peuvent pas répéter. Si vous avez l'art, vous savez répéter. Et vous pouvez en faire 15 à la suite, une espèce d'importance. Et là, vous voyez tout de suite s'il y a la... Ou bien c'est eu un coup de chance. Un coup de chance. C'est ça. Ça arrive, des coups de chance. Mais c'est ça, c'est pas... Les coups de chance, c'est très très bien pour les examens. C'est merveilleux. C'est merveilleux pour les examens, ça, autant que possible. Il faut arriver à un coup de chance pour les examens. Mais pour la vie, c'est pas suffisant. Parce qu'il y a des répétitions, il y a des reprises. Si vous n'avez fait qu'une seule omelette dans votre vie qui était délicieuse, vous ne l'avez jamais recommencée parce que vous avez eu trop peur de la rater, n'est-ce pas ? Vous avouez que vous n'avez pas l'art. L'art, c'est justement ce qui me permet, parce que ça donne une méthode où je domine la matière, je la domine et je sais faire l'œuvre. Et je pourrais la répéter. C'est pour ça que l'art va donner des lois de nécessité, comme une méthode de nécessité. J'arrive à dompter la matière pour arriver à faire l'œuvre. Il arrive à faire sa voix. Voilà l'art. Donc l'art, c'est toujours à partir d'une matière indéterminée et je guide ces déterminations. Et je fais passer l'œuf à l'omelette. Un petit passage, pour les deux. C'est pas la même chose. Elle a changé de figure. L'œuf a changé de figure. Passer de l'œuf à l'omelette. C'est la même matière, mais il y a quelque chose de changé. Voilà ce que fait l'art. Il donne une nouvelle figure à notre monde. L'art donne une nouvelle figure à notre monde. L'art donne une nouvelle forme à notre monde. Il est capable de faire que notre monde a une figure, une forme nouvelle, une expression nouvelle, qui fait que c'est plus agréable à voir, c'est plus utile, et ainsi de suite. Donc l'art transforme la matière. C'est dans l'ordre pratique. L'art est toujours en vue de l'œuvre. Toujours. L'art, le propre de l'art, c'est d'être en vue de l'œuvre. Et de réaliser une œuvre. Une œuvre qui soit bonne. Une œuvre qui soit réussie. Une œuvre qui soit belle. D'arriver à plus. La science, au contraire, la science ne transforme pas la matière, mais la science la connaît. La science connaît. La science connaît les lois, la science connaît les causes, ça dépend si je regarde la science dans le sens de Saint-Thomas et d'Aristote ou dans le sens moderne. Elle connaît les causes propres et les lois propres. Je signale tout de suite, parce que c'est quand même important pour vous, étant donné que nous sommes dans un monde scientifique, il est quand même très important de bien comprendre ces deux significations de la science. La science dans le sens d'Aristote, qui n'est pas celle de Platon. Et troisième sens de la science, à partir de Bacon, à partir de la physique moderne, à partir des mathématiques. Les mathématiques, même du temps d'Aristote, c'était déjà un nouveau sens de la science. Pour Aristote, la science philosophique cherche les causes et les principes propres. La science, au sens moderne, cherche les lois. C'est-à-dire les rapports qui existent entre antécédents et conséquences. C'est le propre de la science. C'est de chercher un rapport de nécessité entre antécédents et conséquences.
Donc c'est ça la loi. Par là, je connais les deux. Je vois que si je pose tel antécédent, il suivra nécessairement telle conséquence. Alors là, je suis en présence d'une loi. Et à partir de là, je pourrais réaliser tout ce que je veux, c'est sûr. La loi me permet la réalisation. Tandis que la cause n'est pas une relation. Ici, je ne suis en pas une relation dans des états de conséquence. La cause n'est pas une relation. La cause, c'est un principe, c'est quelque chose d'antérieur. Et uniquement antérieur. C'est pas le lien entre antécédent et conséquent. C'est, on pourrait dire, si vous voulez, dans un langage métaphorique, c'est une source. La loi n'est pas source, et la cause est source. Ça peut aider à comprendre un tout petit peu. Bon, on va s'arrêter un petit quart d'heure. Cette fois-ci, il faut que j'en sais pas.